La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 8h10, en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous reviendrons sur l'intervention de l'armée française au Tchad. La semaine dernière, des Mirage 2000 ont effectué une vingtaine de frappes sur une colonne de combattants de l'Union des Forces de la Résistance, qui est un mouvement rebelle tchadien. Cette opération, vous le savez, suscite de nombreuses réactions. Au Tchad, l'opposition accuse la France de soutenir un régime, je cite, illégitime. En France, des députés s'interrogent sur le bien fondé de cette intervention. En tout cas, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, s'est expliqué hier devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. La France, a-t-il dit, est intervenue militairement au Tchad dans le respect du droit international pour éviter un coup d'État. Alors, que pensez-vous de ces explications? Vos réactions, évidemment, nous intéressent. Vous êtes très nombreux. C'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. 33 9 693 693 70. Continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Siri Madi nous a contacté de Kaye au Mali. Bonjour Siri Madi.
Bonjour Johan, bonjour à toute l'équipe de la Radio Mondiale.
Merci.
Le président du Haut Conseil. Oui.
Non, je voulais vous remercier de votre fidélité, merci de nous avoir appelés, et quand même dire que vous avez des questions sur le Mali, après la démonstration de force dimanche dernier de l'imam Mahmoud Diko à Bamako.
Bien sûr, bien sûr. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Diko, a organisé le week-end dernier un grand meeting au stade du 26 mars de Bamako, où il a fortement critiqué le gouvernement.
Oui.
Pourquoi les relations sont aussi tendues entre le président Diko et le président Ibeka?
Ah, voilà une bonne question, effectivement. Serge Daniel, correspondant de RFI, est avec nous en direct de Bamako. Bonjour Serge.
Juan, bonjour.
60 000 personnes, Sierra Madi le rappelait à l'instant, 60 000 personnes dans le stade du 26 mars de Bamako, dimanche. Ce rassemblement religieux s'est transformé finalement en réquisitoire contre le pouvoir.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les relations entre Mahmoud Diko et le président de la République ont évolué en dents de scie. J'ai deux souvenirs, si vous permettez rapidement. En 2002, il n'était pas encore président du Haut Conseil islamique, mais candidat présidentiel, il appelait à soutenir la candidature de Ibeka, qui a été d'ailleurs battue à plate couture. 2013, il était président du Haut Conseil, et là, il appelle ouvertement à soutenir Ibeka. Donc, des relations qui évoluent en dents de scie, et les relations sont dégradées, en fait, un peu avant la fin du premier quinquennat. Officiellement, Mahmoud Diko dit, j'ai une citation, le problème du Mali, c'est un problème de gouvernance, le pays est mal géré, je veux que ça change. Mais disons qu'il y a quand même des non-dits. L'entourage du président du Haut Conseil islamique confie par exemple que la gestion des affaires de l'État dans le choix des hommes par le président malien pose problème, notamment, disons, la nomination du Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga, comme, vous le savez, dont il demande la démission. Pour notamment trois choses, mauvaise gestion du dossier du Nord, du Centre, et aussi à cause du fameux manuel sur l'éducation sexuelle à l'école. Mais disons-le en réalité, Juan, de notoriété publique, les relations ne sont pas fonctionnelles 24 heures sur 24, entre Soumaïlou Boubé Maïga et Diko. Et Diko se dit, mais si Ibeka nomme Soumaïlou Boubé Maïga, c'est peut-être aussi parce qu'il m'en veut un peu.
Bah oui.
C'est une analyse, est-ce que vous voyez?
Je vois tout à fait.
Problème de gouvernance, avec les proches du président, ajoutons-le, Mahmoud Diko, à un moment, a probablement eu l'impression qu'il n'occupe pas la place qui devait être la sienne dans le dispositif officiel. Donc tout cela, ça a contribué à crisper davantage les relations avec le président, mais les relations s'apaisent puisqu'il y a une dizaine de jours, vous savez, Diko a perdu sa mère, le président de la République était présent lors des obsèques, Et Diko m'a dit, nous a dit, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché.
Oui, l'imam Diko, qui est une personnalité centrale de la scène malienne, je le précise pour tous ceux qui ne sont pas au fait de l'actualité du Mali. Et c'est vrai qu'il est capable de mobiliser des foules incroyables et d'obtenir parfois du gouvernement qu'il cède sur certains projets. On l'a vu, vous le citiez il y a quelques instants, concernant ce manuel scolaire sur l'éducation sexuelle. Vous aviez une autre question, Sir Amadi ?
Bien sûr, Wano. Le meeting a rassemblé plus de 60 000 personnes. Quel moyen Diko a-t-il utilisé pour parvenir à rassembler une telle foule ?
Oui, c'était digne d'une campagne électorale, Serge Agnel, dimanche dernier, dans ce stade du 26 mars.
Ah oui, un éditorialiste de la presse malienne a même parlé d'une campagne présidentielle. Et c'est vrai qu'à 64 ans, l'homme qui est également l'imam du mosquée de Bamako est un homme de réseau. Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique, a des fidèles, partisans comme lui, d'un islam rigoriste. Donc il joue la fibre également nationaliste et ça marche, ça mobilise. Mais il a également eu, un soutien de taille, celui d'un autre chef religieux, le shérif Kouyé de la localité malienne de Nioro. Il mobilise également ce chef religieux et ses partisans se sont également massivement déplacés au stade du 26 mars. Le shérif Bouyé est très critique également vis-à-vis du pouvoir. Ainsi, le duo Mahmoud Diko, shérif de Nioron, a fait carton. Et pour la petite histoire, Mahmoud Diko s'est même offert le luxe de refuser l'aide financière de 50 millions de francs CFA offert par le gouvernement malien pour aider à l'organisation du meeting. Et vous l'avez dit, mais un meeting qui au début avait pour but de prier pour la paix au Mali, et qui s'est très rapidement transformé en meeting d'opposants.
On en parlera demain. Je sais que certains auditeurs nous ont contactés pour revenir justement sur les propos de Mahmoud Diko dimanche dernier à Bamako. Merci Serge Agnel. Sir Amadi, bonne journée à Kaï. Il est 9h17 à Paris. On va s'intéresser maintenant aux accords de paix signés il y a quelques jours, la semaine dernière pour être précis, entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Anthelme, bonjour.
Bonjour Monsieur Rouen et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bangui, dans la capitale centrafricaine, nous vous écoutons.
L'honneur est pour moi d'être en direct pour la première fois sur RFI.
Eh bien tout arrive, Anthelme, c'est bien, on est ravis de vous avoir avec nous.
Merci. Je voudrais savoir quels postes peuvent occuper ces rebelles dans ce prochain gouvernement, selon la prévision de l'accord.
Alors c'est une bonne question, c'est vrai que le contenu de l'accord est resté secret pendant plusieurs jours. Thierry Vircoulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de l'Afrique centrale. On sait que les groupes armés fixaient comme préalable à la signature de cet accord de paix, notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale dont le Premier ministre serait issu de leur rang. Finalement, qu'en est-il ?
Pour le moment, ils ne l'ont pas obtenu, mais on ne peut pas exclure un élargissement du gouvernement pour y faire rentrer d'autres représentants des groupes armés, puisqu'il y en a déjà un certain nombre qui sont présents dans le gouvernement actuel. On voit bien que l'accord de Khartoum les encourage à créer des formations politiques et ouvre aussi l'administration aux anciens membres des groupes armés, en parlant de réintégration de ceux qui avaient un passé militaire ou administratif et qui voudraient revenir dans leur corps d'origine.
Mais donc il y aura d'autres membres des groupes armés au sein du nouveau gouvernement, mais le texte ne précise pas la répartition des portefeuilles, pour répondre précisément à la question de notre auditeur.
Oui, le texte ne précise rien de ce point de vue-là, mais il faut s'attendre à un élargissement du gouvernement dans les mois qui viennent.
Oui, même assez rapidement, hein, puisque l'article 21 de cet accord stipule que le chef de l'État s'engage à mettre en place immédiatement après la signature un gouvernement inclusif. Vous aviez une autre question, Anthelme ?
Exactement, j'ai une deuxième question. Je veux savoir, est-ce que cet accord permet une poursuite par la justice nationale et internationale.
La question de l'amnistie, Thierry Vircoulon, était probablement la question la plus sensible lors des négociations. Déjà, rappelons-le, c'est important, le mot amnistie n'apparaît pas dans l'accord.
Non, on nie le mot amnistie n'apparaît pas et en fait l'accord s'efforce d'éviter le sujet en le repoussant à plus tard, puisque l'accord prévoit la création d'une commission inclusive qui comprend des membres du gouvernement et des groupes armés pour justement travailler sur cette question Et pour citer exactement le mandat de cette commission, elle doit faire des propositions de toute action susceptible d'être prise en matière de justice. Mmh. Et cette commission doit rendre son rapport à une autre commission, qui est la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, qui doit, à elle, commencer ses travaux dans 3 mois. Donc on voit bien que là, le gouvernement a repoussé cette question très délicate en la confiant à une commission qui va la confier à une deuxième commission. Et donc on voit bien que c'est l'application de l'adage, quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Là, on a 2 commissions qui vont travailler sur cette question de l'amnistie ou des poursuites, avec des délais qui semblent assez longs.
Oui, en tout cas, la Cour pénale internationale continue et continuera à travailler sur les dossiers centrafricains.
Oui, bien sûr. Alors, sur le plan juridique, cet accord ne suspend aucune poursuite, n'empêche pas ni la CPI ni la Cour pénale spéciale de faire leur travail pour le moment, et il n'y a pas de lien entre la situation du droit à l'heure actuelle et cet accord politique pour le moment. Mais ce qu'on note quand même, c'est que avant on parlait en Centrafrique de commission vérité, réconciliation et réparation. Maintenant, depuis cet accord, ils ont changé son nom en l'appelant la commission vérité, justice, réparation et
réconciliation.
Et donc, ils lui ont donné dans cet accord un pouvoir dans le domaine de la justice qui, évidemment, pour le moment, reste complètement indéfini, mais qui indique clairement cette commission va se prononcer sur cette question des poursuites ou des amnisties. Et en plus, l'article 13 de l'accord rappelle le pouvoir de grâce du président en indiquant bien qu'il est appliqué de manière discrétionnaire.
Tout à fait. Vous avez bien fait de le rappeler, Thierry Vircoulon. En tout cas, ce 8e accord de paix a été accueilli avec scepticisme par les centrafricains qui nous ont contactés la semaine dernière pour commenter cette actualité. Merci Thierry Vircoulon. Anthelme, tout s'est bien passé pour une première?
Non, ça va, merci. Je suis très ravi. Et merci à Thierry Vircoulon. Longue vie à vous et longue vie à l'émission.
Et merci de votre fidélité. Bonne journée à Bangui, 9h22. Appelez-nous, vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Je me fais le porte-parole de Jean-Luc à Kinshasa. Que faites-vous, Jean-Luc, avec votre téléphone? Nous ne parvenons plus à vous contacter. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai votre question sous les yeux. Question sur le Yémen, théâtre d'une guerre qui dure depuis maintenant 4 ans. Jean-Luc nous dit... des négociations sont en cours sur un échange de prisonniers entre le gouvernement yéménite et les rebelles houthis. Comment expliquer que les négociations soient si lentes et en quoi cet échange de prisonniers pourrait avoir un impact sur le terrain et donc sur le processus de paix? Bonjour François Burga.
Bonjour.
Directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa au Yémen. On parle d'échanges de prisonniers. Ce sont des milliers de prisonniers qui sont concernés par l'accord.
Oui, ce sont. On a cité le chiffre de 15 000 prisonniers. Alors, quand vous comptez que chacun de ces prisonniers a une famille, peut-être une femme, des enfants, ça fait beaucoup de monde qui sont concernés. Donc ça c'est le bon côté de ce dispositif qui s'est mis en place à Amman depuis un petit mois maintenant, depuis le milieu du mois de janvier. Le bon côté, c'est que malgré l'échec de toutes les négociations précédentes, hein, il y en a eu à peu près dans tous les pays de la région, la dernière, elle était très loin, elle était à Stockholm. Malgré l'échec relatif, Stockholm n'a pas encore échoué. Les négociations d'Amman sous l'égide de la Croix-Rouge, sous l'égide de l'ONU, atteste au moins du fait que le contact direct, parce que là, il n'y a pas de médiateur, le contact direct est maintenu entre les deux parties. Une fois qu'on a dit ça, il faut être très, très réaliste. Premièrement, ces négociations elles-mêmes avancent très lentement pour des raisons techniques. Il y a des listes de prisonniers qui sont ingérables. Les documents d'identification n'existent pas.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, François Burga, c'est que chaque camp, le gouvernement comme les rebelles, viennent avec une liste de noms. Et forcément, parfois, le camp adverse ne retrouve pas la personne qui figure sur la liste, la personne qui demande la libération. Donc on ne sait pas si l'autre camp cache la personne en question, si la personne en question est morte pendant la guerre, enfin c'est compliqué.
Voilà, puis il y a une hiérarchie des priorités, il y a un certain nombre de prisonniers étrangers, les Saoudiens ont des prisonniers chez les Houthis, donc ils y tiennent tout particulièrement. Donc on va dire que la hiérarchie de valeurs des individus n'est pas la même sur toutes les listes. Donc il y a des difficultés techniques. Mais je pense que les difficultés techniques ne se résument pas à ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un échange de prisonniers dans la hiérarchie de négociation entre deux camps, c'est vraiment le tout premier pas. C'est un petit peu, il y a eu des couloirs humanitaires, il y a eu des échanges de blessés qui ont un petit peu mieux fonctionné, qui ont abouti à des résultats concrets. Mais dans l'échange de prisonniers, c'est l'aveu qu'on n'est pas capable de négocier sur autre chose. Normalement, ça devrait être le corollaire du noyau dur de la négociation.
Alors que là, visiblement, c'est le point de départ. François Burga, merci beaucoup d'avoir été quelques instants avec nous et d'avoir répondu à Jean-Luc de Kinshasa. Frédéric Suto du service des sports de RFI nous rejoint à l'instant même. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu dans ce studio. Nous accueillons Abdoulaye qui nous appelle de Conakry. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Des questions sur la Ligue des Champions après la défaite de Manchester United face au PSG.
Oui Juan, le PSG a infligé à Manchester United 2-0 en Ligue des Champions. C'est la première fois qu'une équipe française gagne à Manchester. Manchester qui était sur une série de 10 victoires, est-il en danger pour les qualifications pour les quarts de finale?
Ah, alors, avez-vous la boule de cristal, Frédéric Suto? C'est vrai que Manchester United était invincible depuis la mi-décembre, et la patatras, défaite cette semaine face au PSG.
Oui, ça faisait même 11 victoires, hein. Notre auditeur nous disait 10 victoires, il y a eu 8 victoires de suite, un match nul, 2 victoires, et Manchester qui arrivait complètement lancé, là, sur la vague, comme disent les surfeurs, avec un Paul Pogba qui était irrésistible depuis plusieurs semaines. Manchester est tombé de très très haut à Old Trafford, première fois qu'un club français vient s'imposer à Old Trafford. Alors, c'est le foot, mais c'est aussi la magie, la beauté du foot. C'est vrai qu'à la veille de ce match, on ne donnait pas très cher des chances des Parisiens qui se sont déplacés là-bas à United sans Neymar, blessé, le cinquième métatarsien du pied droit, Cavani. Également l'attaquant qui n'était pas là, mais Paris a su serrer les rangs et finalement Manchester United, peut-être un excès de confiance pour les joueurs de Ole Gunnar Solskjaer qui avaient complètement relancé cette équipe après le limogeage de José Mourinho. Il nous demande si cette équipe sera en danger pour les quarts de finale. Oui. Carrément, ouais, deux buts à remonter, sans Paul Pogba qui a pris un carton rouge.
Carton rouge pour Pogba, ça tombe mal pour Manchester.
Et là aussi, Paul Pogba, il aurait pu l'éviter, ce carton rouge. On l'a vu de l'énervement en première période, un premier carton jaune. Déjà, c'était un signe, on lui résistait un petit peu. Il avait Marquinhos sur le dos, qu'il n'a pas lâché du match. Et puis, il a complètement craqué en fin de partie. Il faudra un petit miracle, littéralement, pour que United renverse la partie au retour à Paris. Mais attention, tout le monde en mémoire, Juan, ce qui s'est passé il y a deux ans. Le huitième de finale aller au Parc des Princes, le PSG qui écrase Barcelone, 4-0, le match le plus abouti de l'ère qatarienne, peut-être en Ligue des Champions. Et puis au retour, au Camp Nou, 6-1 pour Barcelone avec Neymar.
La remontada,
Neymar qui avait été absolument génial. Donc, ça n'est pas joué, bien entendu, il y a cette rencontre, mais les Parisiens, ils l'ont tous en tête, ce match perdu face à Barcelone il y a deux ans. Et là, on a bien senti que, au-delà de l'absence de Neymar, de Cavani, il y a Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand, qui est arrivé l'été dernier pour remplacer Unai Emery, qui est en train d'insuffler sa patte sur cette équipe, et même en l'absence de joueurs majeurs, il a su convaincre tout le monde de jouer ensemble. Il parle énormément aux joueurs, il est là derrière eux dans les heures qui précèdent le match, et il a eu un rôle vraiment primordial. On c'est une victoire tactique.
Et collective.
Avec Kylian Mbappé qui était devant, qui a inscrit l'un des deux buts, mais qui était là pour également harceler les joueurs mancuniens, le repli défensif. Donc, mission, quasi impossible pour Manchester United au match retour.
Match retour le 6 mars.
On y sera au Parc des Princes.
Vous pourrez suivre ce match retour, évidemment, en direct sur RFI. Frédéric Suto, merci beaucoup.
Merci, Juan.
Abdoulaye.
Oui.
En deux secondes, un pronostic pour le match retour.
2-0 encore.
Pour Paris.
Oui, pour Paris.
Sinon, c'est prolongation.
Nous voilà qualifiés. Merci Abdoulaye, bonne journée. Frédéric Suto, à très vite. Dans un instant, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient dans 10 minutes pour notre débat du jour.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.